Nous reprenons ce Radio Barque avec l'historien David Chanterane. Alors, après qu'il soit venu en Narbonne donner une conférence sur le thème de Napoléon et Venise, on a évoqué avec vous, monsieur Chanterane, alors, le cercle Napoléon, pourquoi, quel Napoléon, essentiellement le premier, mais un petit peu le troisième. Mais j'aimerais un petit peu maintenant entrer dans, alors, le quotidien de votre existence quand vous parcourez la France pour donner ce genre de conférence.
C'est vraiment toujours une rencontre intéressante parce que il y a des particularismes locaux, d'un point de vue régional, on découvre également non seulement des passionnés, mais également des amateurs éclairés qui vous disent, voilà, j'ai dans mes archives ou d'un point de vue familial, une histoire particulière. Donc, c'est enrichissant à tout point de vue. C'est surtout intéressant parce que ça permet, à travers ces différentes conférences et ces différentes découvertes, d'aller au devant même de la recherche elle-même. C'est comme ça, en étant sur les archives départementales.
Est-ce qu'il y a des régions de France plus napoléoniennes ou napoléonistes que d'autres?
Elles sont peut-être parfois plus liées à un certain nombre de parcours. Lorsque vous vous trouvez en Champagne, j'en parlais tout à l'heure avec Brienne, il y a forcément des choses qui sont plus attachées à Napoléon Ier. Mais pour ce qui concerne Napoléon III, c'est notamment le cas lorsque vous allez à Bordeaux, vous avez le souvenir de ce fameux discours qu'il a prononcé en 1852. Lorsque vous vous retrouvez à Ham, c'est là où il a été fait prisonnier. Et pour ce qui concerne encore Napoléon Ier, lorsque vous rendez, que ce soit en Corse ou par exemple à Paris, et puis surtout dans ce qu'on appelle les villes impériales, qui est une association qui réunit ces grandes villes qui sont marquées par le Premier et le Second Empire, eh bien il y a à la fois un patrimoine, une histoire qui sont liées à ces deux empires finalement. Donc c'est intéressant à plus d'un titre. En revanche, c'est vrai que, par exemple, par rapport à certaines régions, la Bretagne est un peu moins marquée, même si Napoléon III va faire un grand voyage autour des années 1858-1860, c'est un peu moins marqué napoléonien. En revanche, évidemment, ce qui sera mon cas dans deux jours, je me rends sur la route Napoléon, puisqu'il y a la commémoration du 210e anniversaire de ce retour de l'île d'Elbe. Eh bien, forcément, lorsque vous vous retrouvez à Gap, à Corps, à Grenoble ou à La Fraye, eh bien forcément, ce sont des lieux qui ont été marqués et par des stèles, des statues, des lieux de mémoire, mais aussi plus largement des commémorations qui sont organisées, et c'est encore le cas ce week-end.
David Chanterane, alors une question peut-être particulière en ce qui concerne les régions que vous parcourez. Quid de la Vendée, dont on sait que les débuts de la République avaient causé des épisodes exécrables? Est-ce que Napoléon arrivant derrière, la Vendée a un regard particulier?
Ah oui, elle a un regard particulier sur Napoléon, puisque c'est lui qui met fin justement à ces guerres de Vendée. Et il demande d'ailleurs à un personnage qu'on cite très peu souvent, qui est l'abbé Bernier, de s'occuper justement de ces négociations avec les Vendéens, et il veut régler la question de manière assez rapide. D'ailleurs, lui-même, alors qu'il n'était encore qu'un jeune officier, avait reçu mission de partir en Vendée, il l'avait refusé, en disant « je refuse vraiment ce qui est une guerre civile ». Et il a en mémoire donc cet épisode dramatique donc que vous évoquez, enfin ces épisodes dramatiques, et il règle la question de la Vendée rapidement. D'ailleurs, en 1815, lorsqu'il revient au pouvoir, cette Vendée, eh bien finalement, se soulève de nouveau, mais ça n'est pas contre son pouvoir personnellement, mais c'est plutôt contre une certaine idée de la Révolution. Parce que Napoléon, finalement, il est plutôt à bien accepter, même s'il est quand même toujours lié à l'esprit et au souvenir de ces Jacobins, mais il n'en demeure pas moins que c'est lui qui a permis à la Vendée d'être finalement acceptée avec ses particularismes, et ça, on lui doit énormément.
Et alors, lorsque vous donnez ces conférences et que vous rencontrez du public, est-ce qu'il vous arrive d'entendre des choses alors qui vous surprennent peut-être, qui vous choquent peut-être? Comment ça se passe?
Non, je crois qu'au bout d'un moment, on n'est plus choqué. Au contraire, c'est intéressant. Les polémiques qui sont liées à Napoléon et plus largement à son règne et à tous les épisodes de sa vie, ils sont intéressants parce que ça révèle un certain nombre de choses. Lorsqu'on caricature les différents épisodes de la vie de Napoléon, c'est que derrière cela, il y a peut-être des idées préconçues ou un enseignement qui a peut-être pas été donné, ou alors on a des idées peut-être un peu fausses. Et c'est tout le sens justement à la fois des conférences et des débats qui s'en suivent, c'est de rétablir un certain nombre de réalités historiques, de montrer qu'il y a un contexte politique et historique qu'il faut rappeler, parce que sinon, eh bien, on juge avec notre regard contemporain, ce qui est tout à fait faux. Et puis, il faut comprendre aussi quels étaient les éléments qui présidaient à ces différents épisodes et de ces différents événements. Donc c'est tout cela qu'il faut rappeler dans ces conférences. Il y a un certain nombre de choses, de sujets qui sont souvent abordés. Par exemple, de quoi est mort Napoléon, quel était le sens du rétablissement de l'esclavage, quelle était la position des femmes à son époque. Tout ça, c'est important parce que ce sont encore des débats qui agitent notre société. Et Napoléon, lorsqu'on explique véritablement quel était son rôle, finalement, on a un regard beaucoup plus nuancé que certaines caricatures qui sont faites parfois.
Oui, justement, est-ce que vous avez l'impression, quand vous faites ces conférences, c'est peut-être un peu prétentieux, mais de rétablir certaines vérités par rapport à des déformations dues à tout un tas de raisons?
C'est le sens de tout cela, c'est-à-dire qu'on a un rôle à la fois pédagogique et d'explication. C'est de montrer, je vous dis, tous ces éléments de contexte et de compréhension. Parce que on a un regard qui est parfois qui a été détourné, parce que il y a le côté idéologique qui a joué à plein.
Oui, voilà.
Là, notre rôle, c'est justement de rendre les choses de manière apaisée, compréhensible par tous. Et comme le dit mon maître Jean Tullard, que tout le monde aime dans ce studio, Jean Tullard, c'est vraiment la personne qui a permis justement à cette histoire napoléonienne d'être apaisée. Et comme il le disait d'ailleurs très justement encore très longtemps lorsqu'il donnait ses cours, eh bien, il faut laisser de côté ses a priori, même ses pensées personnelles, pour ne faire de l'histoire que de façon la plus objective qui soit. Et c'est tout le sens et toute l'importance que nous avons en tant que pédagogue et en tant que professeur.
Oui, et qu'historien. Alors ça, ce que vous dites est valable pour toute l'histoire, finalement.
Oui, mais il ne faut pas venir avec des idées préconçues et sans idéologie particulière. C'est-à-dire que les faits parlent d'eux-mêmes. Il faut les rendre accessibles sans pour autant juger. C'est ensuite à l'auditeur, au lecteur, aux personnes qui sont autour de vous, de se faire leur propre opinion. Mais ce n'est pas à vous de le faire à leur place, parce que sinon, vous laissez un pan entier de l'histoire de côté, et c'est à mon avis dommageable pour tout ce que l'on peut faire, notamment vis-à-vis des générations les plus importantes, c'est-à-dire les plus jeunes, qui ont ensuite toute leur importance dans la façon dont ils vont ensuite diffuser ces informations-là.
Oui, ça c'est un regard à la fois d'historien et de journaliste peut-être aussi.
Exactement, c'est tout le sens de la pédagogie et également de la communication, parce qu'on doit rendre non seulement accessible pour le plus grand nombre, mais le faire sans faire forcément d'amalgame, ni même de raccourcis trop faciles, parce que parfois c'est un peu vers cela que certains se complaisent. C'est pas notre ambition.
Mmh. Oui, donc alors pour en revenir à ce personnage, au destin, vous l'avez évoqué, totalement improbable a priori, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les 12 morts de Napoléon ». Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'était vraiment un casse-cou ?
Ben, Napoléon est un personnage qui a été confronté à la mort. Tout d'abord parce que dès sa naissance, les 12 morts, ça veut dire qu'il y a eu 11 morts avant Sainte-Hélène. Et dans ces 11 morts, ou des moments où il a frôlé la mort, il y a par exemple sa naissance, puisque la mortalité infantile est très forte à cette époque. Pour donner un exemple, dans cette famille des Bonaparte, il y a eu 13 naissances, il n'y a que 8 enfants qui vont survivre. Mmh. Et de la même manière, il va être confronté à la mort à la fois sur le champ de bataille, sur les tentatives d'attentat, lui-même a voulu se suicider en 1814, il a voulu se donner la mort un peu à la façon des grands héros de l'Antiquité.
Oui, bref, c'était un peu romantique.
Mais exactement, pourquoi ? Parce qu'il voulait quitter le pouvoir de façon un peu... voilà, un peu extrême, mais ça montre que cette mort, elle est quotidienne, qu'on la côtoie, je vous le disais, sur le champ de bataille régulièrement, que les maladies donnent énormément de dégâts et font énormément de dégâts, et Napoléon va faire en sorte que cette médecine s'améliore grandement. Bref, il y a toutes les conditions qui sont réunies en expliquant finalement ces morts que Napoléon a pu frôler, par exemple la peste à Jaffa, ça montre un certain nombre de réalités qui permettent d'être expliquées à travers des épisodes particuliers qui sont ceux de sa vie.
Mmh, oui, alors vous disiez tout à l'heure, Monsieur Chantran, vous allez très prochainement aller sur la route Napoléon. Donc ça, c'est le retour de l'île d'Elbe, le premier exil. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Parce que quand on ne sait pas trop les choses, on le voit presque un peu comme du folklore, enfin quelque chose de léger.
Napoléon avait deux choix qui s'offraient à lui. Soit de rester effectivement à l'île d'Elbe et d'être une sorte de roi d'une petite île qui était une sorte de petit confetti finalement vis-à-vis du grand empire qui avait été le sien auparavant.
Dans lequel il se serait ennuyé mortellement.
Peut-être ennuyé mortellement, même si, rassurez-vous pour lui, en 9 mois il a fait énormément pour l'île d'Elbe. Et encore aujourd'hui, lorsque vous allez sur place à Portoferraio et sur l'île, vous voyez toutes les réalisations, que ce soit les routes, les hôpitaux, les écoles, enfin bref, il a exploité aussi le minerai de fer qui ne l'avait pas été depuis très longtemps. Bref, il a fait de l'île d'Elbe un lieu... tout à fait moderne et efficace, on va dire. Mais il revient pour deux raisons. Tout d'abord parce que il y a des tentatives d'assassinat sur sa personne et qu'on évoque peut-être même de l'envoyer plus loin. Et puis surtout parce que la situation de la France n'est pas exactement ce que les royalistes attendaient et qu'on n'a pas réussi à régler un certain nombre de problèmes. Donc il a appelé et il va le faire en se disant, eh bien, qu'il va reprendre le pouvoir pour le confier soit à son fils, soit à une coalition politique. Malheureusement, les alliés, les coalisés ne l'entendent pas de cette oreille et ils vont reprendre les devants militairement et Napoléon va donc se rendre au devant d'eux en Belgique et ça va être la fameuse bataille de Waterloo que tout le monde connaît le 18 juin 1815 qui va mettre un terme à cette seconde épopée finalement et il abdiquera une dernière fois le 22 juin 1815, cette fois-ci à l'Élysée, non plus à Fontainebleau comme la première fois et puis part en direction de l'exil qui se finira, vous le savez, à Sainte-Hélène.
Voilà, et c'est ainsi que nous allons terminer cette émission. Merci David Chantranne.
Merci de votre invitation.
Donc historien, donc je rappelle, donc vous enseignez à divers endroits, y compris
donc à la Sorbonne et à Créteil. Et je suis directeur des sites patrimoniaux de Rueil-Malmaison voilà. Et rédacteur en chef
alors,
de la revue du souvenir napoléonien.
Rueil-Malmaison, un nom prédestiné aussi.
Exactement.
Pour
exactement.
L'épopée napoléonienne.
Tout à fait.
Voilà. Merci à vous donc David Chantranne pour être venu nous expliquer ce que sont ces cercles Napoléon et ces conférences que vous donnez ici et là. Merci à vous.
Merci.